France Culture.
Bienvenue à tous dans les Minutes Culture. À 13h, je recevrai l'acrobate, danseuse, funambule, ex-trapéziste Chloé Mollia pour son spectacle Oiseau Ligne, actuellement au rond-point à Paris. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques jours, une tribune paraissait à l'initiative du réseau Relief, qui réunit une soixantaine de manifestations littéraires dans toute la France, pour tirer la sonnette d'alarme sur la situation de nombre de ces événements. Quels sont concrètement les dangers qui pèsent sur les manifestations littéraires et quels sont leurs enjeux? C'est notre Point Culture du jour. Olivier Chedanson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Maison de la Poésie à Paris et vous êtes également le président de l'association Relief. Vous avez fait paraître en avril, via cette association, une tribune pour alerter sur les dangers qui pèsent sur les manifestations littéraires. Alors, quel est le modèle économique finalement typique d'une manifestation littéraire? Est-ce qu'elles sont globalement et traditionnellement très aidées, par exemple, par les régions, par les départements?
Alors, elle bénéficie en général de financements croisés, donc à l'échelon municipal, départemental, régional, souvent complété par un appui du Centre National du Livre, donc l'État, et puis des sociétés comme la SOFIA. Simplement, en effet, si elles ont ce spectre de financement, elles sont en général, c'est des événements qui sont quand même moins financés que des formes plus anciennes du spectacle vivant, comme le théâtre, la musique ou la danse. On a toujours un peu l'impression qu'un festival littéraire peut s'organiser avec du bénévolat, de la bonne volonté, etc. Et de fait, on sous-finance ces événements en négligeant le fait que ça demande des compétences professionnelles, des équipes et des moyens d'action. Voilà. Donc on est un peu plus vulnérable que d'autres éléments de la chaîne de la culture.
Et vous rappelez notamment dans cette tribune la décision d'autodissolution prise par l'équipe du festival Fête du Livre à Bron. Alors est-ce que cet exemple est selon vous annonciateur d'autres éventuelles cessations d'activité?
C'est ce que l'on craint, et puis il est emblématique d'une situation où en fait les équipes sont usées, donc voir se détériorer une situation d'année en année alors qu'on est très implanté comme l'était la Fête du Livre de Bron, c'est une espèce de danger à bas bruit parce que tout d'un coup on fait face à une équipe qui baisse les bras. C'est pas un accident budgétaire où un partenaire se retire et on perd 30% du financement, c'est un phénomène d'usure qui est en train d'agir, qui est pas forcément visible, et c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en visibilité en disant attention, on n'est quand même pas loin d'une forme d'impasse et de mouvement de retrait et d'abandon.
Alors, vous en parliez déjà un tout petit peu, mais donc on a entendu beaucoup cette année des annonces de réduction des budgets alloués à la culture et dans de nombreuses régions. Le danger pour les manifestations littéraires doit-il se comprendre justement dans ce mouvement général, ou donc c'est de ça dont vous peut-être parliez déjà un tout petit peu, c'est malgré tout il y a une certaine spécificité dans les manifestations littéraires?
Oui, alors pour nous le danger il est double. Il est la résultante d'une situation qui depuis une dizaine d'années fait que nos subventions stagnent et que face à cela l'augmentation du coût de la vie ou l'inflation nous étrangle petit à petit, et dans ce phénomène peu visible mais évident de suffocation. Et puis il est beaucoup plus visible et spectaculaire quand on est implanté dans un territoire, une collectivité qui décide tout d'un coup de supprimer ou réduire fortement son soutien à la culture. Donc il y a le moment politique et puis un phénomène plus lent et tout aussi dangereux parce qu'insidieux.
Vous parlez aussi d'une solution qu'on vous propose parfois pour pallier les problèmes justement rencontrés, c'est l'utilisation du pass culture, mais ça semble plutôt être une fausse bonne idée. Alors quelles seraient au fond les bonnes solutions selon vous?
C'est là toute la question, c'est pour ça qu'on réclame une sorte de comité de crise pour y réfléchir ensemble. C'est vrai qu'on est quand même... Nous ne sommes pas non plus des rêveurs. Nous savons que l'argent public est contraint et qu'il n'y aura pas une manne qui va tout d'un coup sortir de nulle part. On essaye de faire des efforts. On a déjà réduit un peu nos programmations, mais on alerte en disant au-delà d'un certain point, c'est un peu se faire harakiri. Donc, on est raisonnable. On gère au plus proche. Mais à un moment, il faut quand même arriver à financer nos équipes et nos activités. Je ne sais pas comment répondre. C'est vrai qu'on y dit toutes sortes de choses. Faites appel au bénévolat. Je l'ai évoqué. Rechercher des partenaires privés, mais il n'y en a pas beaucoup pour la vie littéraire. Réduisez la programmation, on l'a déjà fait, le pass culture. Oui, c'est bien, mais c'est marginal. Et puis, on a vu que ça peut s'arrêter brutalement. Voilà, donc on bute sur toutes sortes de demi ou fausses solutions.
Il faut peut-être préciser aussi quelles sont les actions, justement, des manifestations littéraires, notamment réunies dans le réseau Relief. On pense sans doute d'abord au Festival de littérature, mais il y a aussi, alors conjointement ou non, d'autres événements. Il y a des ateliers d'écriture, des interventions en école, en hôpital. hôpitaux. Est-ce que, au fond, l'action culturelle de ces manifestations est sociale, politique ?
Complètement. Je crois qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul festival qui n'ait pas un programme d'action culturelle et de travail auprès de différents publics éloignés de la culture, comme on dit. Donc, ces événements-là, cette vie littéraire, elle est vraiment au cœur de l'écosystème du livre. Elle permet de rémunérer les auteurs, elle permet de stimuler les ventes de livres avec les libraires, de stimuler l'envie de lire, de renouveler l'image de la littérature et aussi d'aller, comme vous le disiez, vers des publics scolaires, vers le milieu rural, vers toutes sortes de publics empêchés de venir naturellement dans des événements ou dans des lieux culturels.
Mmh. Alors, le CNL, justement, présentait hier son baromètre bisannuel autour des Français et de la lecture, un rapport qui constate un recul net, justement, de la lecture. L'an dernier, déjà, un autre rapport indiquait un recul, notamment chez les jeunes, au profit, en général, des écrans. Est-ce que, pour vous, l'existence de ces manifestations littéraires permet aussi justement la recréation d'un lien à la lecture, peut-être différent aussi de celui auquel on est traditionnellement habitué, peut-être plus collectif ?
J'y crois vraiment, parce qu'à l'échelle de nos événements, on voit bien qu'on ne souffre pas de manque de public. La plupart d'entre nous, on a un public abondant, fidèle, divers, et c'est sans doute parce que, en dépit de la baisse des pratiques de lecture, il y a quand même toujours le goût de la rencontre avec l'auteur. Il y a aussi une façon de mettre en vie la littérature en scène lorsque l'auteur ou des comédiens viennent lire avec des musiciens, avec de l'image. Donc il y a une façon aussi de peut-être à la fois dépoussiérer l'image de la littérature et puis lui donner une existence scénique qui tout d'un coup va permettre de parler à un public plus large qui peut-être est moins familier de la lecture en solitaire avec le livre entre les mains, mais qui, à travers la scène ou la voix, trouve une façon d'arriver à la littérature. Donc je pense qu'en effet, on a vraiment une action d'ouverture vers d'autres publics.
Et est-ce que pour vous aussi, ces manifestations littéraires permettent aussi justement de faire vivre des genres qui sont peut-être un peu moins populaires, qui sont peut-être un peu moins ceux vers lesquels on va? La poésie, bien sûr, j'y pense, et vous êtes directeur de la Maison de la Poésie.
Bien sûr. Je crois que tous les événements qui adhèrent à Relief ont peu ou prou les mêmes soucis de, à la fois, évidemment, saluer les auteurs reconnus, mais aussi stimuler la curiosité, faire entendre des voix plus discrètes, des projets plus pointus. Donc, on travaille dans cet équilibre-là. Profiter de la dynamique d'un événement pour mettre en lumière des écritures ou des auteurs qui le sont moins naturellement parce que ce sont des œuvres qui demandent un petit peu plus de travail, d'approche et d'explication.
Merci beaucoup, Olivier Chandanson.
Merci.
Vous en parliez à l'instant, Sophie Catherine, les Français lisent moins selon une étude du Centre National du Livre.
Effectivement, et ce sont étonnamment les 50-64 ans qui ont le plus décroché de la lecture, puisqu'ils sont 15 points de moins à lire tous les jours ou presque par rapport à la dernière étude publiée il y a 2 ans. Les moins de 25 ans lisent 13 minutes de moins chaque jour et regardent leur écran 53 minutes de plus.
Alors, une bonne nouvelle quand même, pour compenser un peu, les jeunes lisent de plus en plus, mais avec les oreilles.
Tout à fait. 55% des 20-24 ans écoutent des livres audio, selon le baromètre annuel Les Français et le contenu audio qu'a publié Audible en partenariat avec Opinion Way. Un chiffre en augmentation de 16 points selon la plateforme de livres audio. Du côté des moins de 35 ans, la moitié consomme aussi de la littérature audio. Ils sont particulièrement séduits par le développement personnel, la santé, la parentalité, mais aussi par les romans policiers, les thrillers, ou encore les fictions contemporaines. Tous âges confondus, 72% des audiolecteurs déclarent ne pas lire moins, sinon davantage.
Livre toujours, le tribunal des activités économiques de Paris vient de rendre un jugement favorable à l'éditeur Fayard.
Oui, en octobre dernier, la régie Média Transport, qui exploite notamment les panneaux publicitaires de la RATP, avait refusé l'affichage publicitaire de l'ouvrage de Jordan Bardella, « Ce que je cherche ». Elle estimait que la promotion du livre, je cite, « d'un homme politique en exercice », ne respectait pas le principe de neutralité. Selon Fayard, cette décision portait atteinte à la liberté d'expression. Hier, le tribunal a jugé fautif le refus de la régie d'exécuter le contrat qui la liait à Hachette Livre. Il relevait entre autres que le visuel de cette campagne, je cite de nouveau, ne présentait pas de caractère politique.
Et pour finir, Sophie Catherine, on en sait plus sur le déroulement du Festival de Cannes.
Deux acteurs américains vont faire partie des invités mis à l'honneur. Tom Cruise y présentera hors compétition son dernier Mission Impossible au lendemain de l'ouverture du festival. Et on connaît déjà le vainqueur d'une palme, celui de la Palme d'Or, qui sera décerné à Robert De Niro pour récompenser l'ensemble de sa carrière. La sélection de la compétition officielle sera quant à elle présentée demain.
La Palme d'honneur, pas encore la Palme d'Or. Sophie Catherine, vous allez trop vite.
Effectivement.
La Palme d'auteur. Merci en tout cas Sophie Catherine. Et on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.